Zéro, brassage radio. Alors vous l'entendez, cramer le brasier. Est-ce que le vieux monde va se consumer et s'écrouler, ou est-ce que c'est simplement l'Australie qui crame? Eh ben, on va continuer un petit peu, un petit tour de monde, et partir à Hong Kong, un port sur la mer de Chine méridionale, plus de 7 millions d'habitantes réunis sur 1104 km², c'est-à-dire en gros un territoire pas tout à fait 3 fois plus grand que la métropole toulousaine, qui concentre 10 fois plus de personnes. Colonie britannique depuis 1842, rétrocédée, comme ils disent, à la Chine en 1997. Aujourd'hui, région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine, c'est son nom administratif. Elle garde néanmoins sa monnaie, le dollar de Hong Kong, et son système légal, un multipartisme, et même des équipes de sport internationales. C'est le fameux « un pays, deux systèmes ». Cette cité-pays est censée conserver cette autonomie toute relative jusqu'en 2047. C'est la troisième place financière du monde et son port tenait le cinquième rang mondial en 2015. 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les conditions de logement sont extrêmement difficiles. Le prix du mètre carré est deux fois plus cher qu'à Paris, c'est dire. En 2003, les loyers avaient été multipliés par 4. On peut se retrouver dans des 5 mètres carrés. 1,2% des plus riches détiennent 53% du patrimoine. Et enfin, Hong Kong ne produit que 2% de la nourriture dont elle a besoin. Autant dire, une place rêvée pour faire la révolution. Voilà, c'est une toile de fond très vite peinte. Et depuis le 15 mars 2019, un mouvement de contestation a lieu dans cette ville-État. Le 24 novembre ont eu lieu des élections pour désigner des conseillers de district. Des élections pour choisir les 452 membres des 18 conseils de district compétents sur des questions de vie quotidienne, comme la collecte des ordures ménagères. Comme partout dans le monde, les élections ne soulèvent pas l'enthousiasme. Cette fois-ci, avec un peu plus de 70% de participation, on parle de record de participation, qui a été donc presque multiplié par deux par rapport aux élections précédentes. On va pouvoir en parler. En tout cas, le gouvernement de Carrie Lam est donc toujours à la manœuvre, et pour l'heure, aucune des revendications du mouvement ne semble avoir abouti. On en avait déjà parlé en novembre dernier, et on revient aujourd'hui sur ce mouvement qui n'a pas désarmé depuis, même s'il a bien entendu quitté la une de la presse.
Okay. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Voilà, l'hymne et Bruce Lee, Be Water, voilà un petit peu résumé très vite à grands traits donc, le mouvement. Bah, on revient un petit peu en arrière, bah, c'était juste après qu'on soit vu, 15 novembre, siège de l'université polytechnique, les manifestants tirent à l'arc, s'évadent, etc. Est-ce qu'on en parle ?
Eh ben ouais, on peut en dire quelques mots. Alors en gros, pour recontextualiser, il y a début novembre, pendant une des manifestations pro-démocratie, un étudiant qui, dans un mouvement de panique suscité par une attaque de la police, tombe d'un parking. Il passe une semaine entre la vie et la mort, et donc le 8 novembre, le vendredi je crois, on annonce qu'il meurt, et c'est le premier mort officiel, disons, du mouvement, au sens où la responsabilité de la police, elle est reconnue, sue, et que c'est pas possible de la masquer, contrairement à tout un tas d'autres disparus. On en avait parlé la dernière fois, où en fait la responsabilité, elle avait jamais été publiquement avérée. Et du coup, dans la foulée, le 11 novembre, il y a un grand appel à la grève générale qui est lancée. Et en fait, c'est là qu'est mis à l'honneur un des autres mots d'ordre du mouvement, à côté du fameux Be Water, qui est le éclore partout. Qui en fait vient répondre au fait que les métros ne fonctionnent pas, on ne peut pas se rendre sur les lieux des manifestations. Et donc, c'est comme ça, en ville, une éclosion de lieux où les gens se rassemblent et éventuellement détruisent des infrastructures ou du coup bloquent, comme c'est le cas dans l'université chinoise et ensuite dans la polyuniversité. Et du coup, l'occupation dont tu parles, c'est l'occupation de la polyuniversité qui dure, en gros, ça commence, je crois, le 12 novembre, et ça dure ensuite, ça s'éteint à petit feu, mais disons que ça dure à peu près une quinzaine de jours, je crois, avec les temps forts qui sont concentrés dans la première semaine. Là, en fait, converge vers cette université qui est un des points stratégiques de la ville, parce qu'en fait, il y a un tunnel qui rattache le quartier où elle se situe à l'île de Hong Kong et notamment à une gare qui permet d'accéder à la Chine continentale. On bloque ce point routier et dans l'université s'organise toute une résistance aux attaques de la police. Donc, il y a alors on a beaucoup de comptes rendus, enfin quelques comptes rendus qui ont un peu circulé sur le siège de l'université, mais en gros il y a une division du travail spectaculaire qui se met en place avec des gens qui acheminent des vivres, des gens qui viennent exprès dans l'université pour cuisiner pour ceux qui sont au front. Il y a évidemment comme d'habitude les frontliners, la magie du feu, donc ils préparent les cocktails Molotov dans l'enceinte de l'université en ayant récupéré le matos qu'ils avaient dans les laboratoires de chimie. Il y a
La
aussi
magie du feu.
la magie du feu. Alors bon, c'est une taxinomie, on ne sait pas trop dans quelle mesure tout le monde l'utilise là-bas, mais en tout cas, elle revient beaucoup dans les articles sur le mouvement. Il y a plusieurs types de magie. Donc la magie du feu, c'est la magie qui est employée par les gens qui confectionnent et qui lancent les cocktails Molotov. La magie de la lumière, c'est l'utilisation des lasers pour aveugler la police quand ils attaquent. Je sais pas que c'est. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez des autres types de magie, mais en tout cas, voilà, ces classifications en termes de magie, on les retrouve pas mal dans les articles qui parlent de la manière dont les manifestants décrivent leurs propres pratiques. Et il y a aussi une cellule de crise qui se met en place, de soutien psychologique, et par rapport à la violence, évidemment, des affrontements qui ont lieu chaque jour et chaque nuit, où il y a très peu de sommeil, etc., dans l'école polytechnique, mais aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont fait mettre dehors par leur famille, qui à l'intérieur du mouvement se mettent complètement en jeu, et donc par rapport à ça, il y a comme ça des cercles qui se mettent en place d'aide, d'écoute, et tout ça, pendant le siège même, alors même que les affrontements ont cours. Et donc voilà, pendant plusieurs jours, il y a les images qui circulent de façon assez spectaculaire. Le conflit atteint un niveau d'intensité assez inégalé. On a les images des catapultes autour de l'université, les barricades horizontales qui sont mises en place comme ça avec des briques collées au sol pour crever les pneus, détourner les camions, etc. Et aussi des moments où on voit, comme on en a peu l'habitude, les blindés de la police chargés, puis reculés, complètement submergés sous le flot du coup des cocktails Molotov des centaines de frontliners qui se mettent devant le siège de l'université. Donc ce qui est assez remarquable là-dedans, c'est à la fois que c'est la première, je dirais, grande occupation de ce mouvement qui a maintenant 6 mois. Et sachant que l'occupation, c'était le mode d'action principal en 2014, et que là, plutôt, c'était de la guerre de mouvement.
2014, c'était les parapluies, c'est ça?
C'était les parapluies.
Ce qu'on a appelé le mouvement des parapluies.
Tout à fait. Le mouvement Occupy. Et donc, où, en fait, on avait l'impression que dans ce mouvement-là, on avait renoncé à des modes d'action statiques. Ici, au contraire, on assume le fait de faire de l'université une forteresse et d'en faire un point d'éclosion. Et il y en a des tas d'autres en ville où ça marche pas. Et en fait, les gens vont là où ça marche. Donc, c'est une synthèse entre les deux, disons, entre les Be Water et en même temps l'éclosion, et tenir un lieu, parce que depuis ce lieu-là, on peut bloquer des flux logistiques. Et.
Est-ce qu'on sait si, parce que par exemple, si on revient sur les parapluies, on parlait beaucoup d'étudiants, en tout cas d'ici, après c'est toujours difficile de savoir. Est-ce que là, c'est les propres étudiants, justement, du coup, qui occupent leur université, ou est-ce que, justement, comme j'ai l'impression que tu sembles le dire, les gens se rejoignent là-bas et il n'y a pas que des étudiants et étudiantes, quoi?
Moi, de ce que moi j'ai pu lire du coup, parce que j'étais pas évidemment, c'est principalement des étudiants et des lycéens, mais pas forcément de l'école polytechnique. C'est des étudiants qui eux aussi avaient essayé de bloquer leur université. Il y en avait qui venaient de l'université chinoise, et en fait, dès qu'il y a un endroit où ça devient trop tendu, ou que le mot circule qu'il faut évacuer parce qu'il y a des risques d'infiltration, parce que la place peut plus être tenue, etc., et ben on s'agglomère ailleurs, dans un autre point, et de cette manière-là, on continue à. En fait, au fond, peu importe le point où on bloque, tant qu'on bloque un endroit où il y a du sens à empêcher les voitures de circuler, etc. Et donc voilà, il y a le retour d'un usage de l'occupation, une forte solidarité entre le dedans et le dehors, puisqu'il y a des gens qui viennent pour amener des vivres, des vêtements, du matériel de défense, etc. Et aussi faire la cuisine, comme on disait tout à l'heure, mais aussi qui vont venir chercher les étudiants pour les évacuer discrètement, ou en tout cas les exfiltrer au moment où il est clair que l'université pourra plus être tenue. Et donc ça, les images, peut-être vous avez pu les voir, elles sont assez, assez marquantes, de gens qui descendent à la corde du pont avec les motos qui attendent en bas, mais aussi les anciens architectes de l'université qui font tourner le plan des égouts de la fac, et qui vont permettre à des dizaines et des dizaines d'occupants de s'exfiltrer prudemment, en ayant fait de manière un peu maligne la propagande que ils n'arrivaient pas à sortir, que le plan des égouts marchait pas, etc., pour que la police prenne pas les devants et disons, les laisse partir filer en douce, quoi. Et voilà, et bon, alors ensuite ça dure encore sur une dizaine de jours. Au début, il y a beaucoup d'articles dessus, après il y en a de moins en moins, parce que en fait ça meurt à petit feu, les gens sortent au goutte à goutte, il y a beaucoup beaucoup d'arrêtés, des centaines et des centaines. On n'a pas exactement les chiffres et on ne sait pas pénalement encore ce que ça va donner, mais en tout cas ça finit par mourir, et on s'attend à ce que peut-être avec la fin de l'occupation de la plus université, c'est la fin du mouvement, ou en tout cas une nouvelle séquence qui s'ouvre, peut-être moins offensive, ou en tout cas dans laquelle les Hongkongais seraient vraiment choqués par ce qu'ils ont vu. Et les élections, ça vient juste après ça, peut-être on pourra en parler.
Peut-être on en parle juste après, mais moi c'est une impression que j'ai, mais peut-être aussi parce que voilà, je suis pas assidu, mais j'ai l'impression que la répression est pas tellement un thème. À part, bon, bien sûr, la répression de la police directe, etc., comme dénonciation, mais le décompte des prisonniers prisonnières, etc., le décompte soit des amendes, soit des procès, a pas l'air d'être répertorié, ou d'être. C'est comme si on va en prison, ben voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vont en prison, et puis il y a encore. C'est toujours le mouvement. Est-ce que c'est une impression. Qu'est-ce que vous avez cette impression-là aussi, ou.
Eh ben, on a vu tout à l'heure, on regardait un peu une conférence qui a eu lieu sur Hong Kong au CCC, le sommet des hackers là. Et là, la personne qui faisait la présentation donnait un décompte assez précis. Alors je ne sais pas quelles étaient ses sources, mais il me semble de mémoire qu'elle disait quelque chose comme 7 700 arrestations, et environ 700 ou 800 personnes qui sont poursuivies dans le mouvement en ce moment. Et après, je ne sais pas du tout si c'est que je sais pas si c'est les tribunaux qui seraient engorgés, qui n'auraient pas eu encore de condamnation un peu spectaculaire, si c'est que les choses se passent un peu comme ça, sans que personne soit trop au courant. Quelles sont les raisons qui font que la répression, c'est pas. Exactement un thème, et c'est vrai que ça se concentre plus sur les violences policières que sur la phase ensuite judiciaire, disons, de mise au pas du mouvement.
Il y a quand même eu, au moment des occupations de la fac, justement, il y a quand même eu pas mal de choses là-dessus, justement, sur les chiffres, parce que au moment de cette occupation, comme il l'a dit, il y a pas mal de gens qui viennent de dehors aussi pour apporter leur soutien aux gens qui sont dedans, dans la fac, qui tiennent la fac. Et à ce moment-là, l'usage des lacrymogènes et des balles en caoutchouc, etc., explose vraiment. Et donc, il y a plein d'infographies et de statistiques qui montrent combien ont été tirés en juin, en juillet, en août. Et on voit qu'en octobre et en novembre, octobre à cause de la semaine de la fête nationale chinoise, et novembre à cause de l'occupation de la fac, ça explose. C'est un chiffre bien supérieur à ce qui s'est passé avant. Et ça monte en continu, quoi. Et donc, il y a eu quand même tout ça. Et après, il y a quand même aussi des sites qui répertorient le nombre de prisonniers, qui font des décomptes comme ça, mais qui sont moins visibles depuis chez nous, je pense.
D'accord.
Sachant aussi juste un petit détail que pour ces occupations de fac, la propagande du mouvement, disons, ça a été vraiment de dire que c'était l'épisode Tiananmen qui allait arriver là. Le soir du 17 novembre, il y a eu toute une nuit comme ça d'assauts répétés de la police repoussés par les manifestants. Et sur tous les fils Telegram, ils disaient « venez nous aider, ce soir c'est on se fait tous tuer ou on gagne quoi ». Et ils ont dramatisé comme ça aussi le conflit. Et le mot Tiananmen est sorti de partout, dans tous les tweets, dans tous les fils Telegram. Alors que bon, de fait, ce qui est arrivé, c'est pas un massacre à la Tiananmen. Mais symboliquement, il y avait un peu de ça, d'assaut final qui allait donner le... Moi, les amis là-bas me disaient, c'est ce soir que tout se joue... Donc très dramatique comme ça.
Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, moi je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vu, donc c'était juste avant ça, en novembre, il y avait cette impression que les camions chinois arrivaient, étaient autour, que ça allait être un peu imminent cette histoire de chinois, même on y croyait pas, on se posait la question, etc. Mais c'est vrai que bon, bah, au final, on a atteint un niveau d'affrontement assez énorme et bon, toujours pas d'intervention militaire de la Chine populaire, en tout cas de Pékin, quoi. Donc revenons à cette chronologie. Donc il y a un moment des élections quand même, hein, la vie continue, dirait-on. C'est le 24 novembre et ça fait un peu date, quoi. Donc qu'est-ce qu'attendait le gouvernement à ce moment-là de ces élections? Est-ce que
Eh ben, c'est assez fou parce que il se trouve, enfin, ce que disent les articles et les gens là-bas, c'est que a priori le gouvernement s'attendait plutôt à un plébiscite en sa faveur, et alors que le mouvement a tout fait pour aller faire voter tout le monde. Et là, pareil sur tous les canaux de propagande du mouvement où vraiment il y a un rejet, c'est même pas un rejet, c'est une absence des cadres de la politique classique, c'est pas des partis qui organisent ça, ils croient absolument pas dans le gouvernement et le système hongkongais. Tout le monde a appelé à aller voter en expliquant pourquoi, enfin quels étaient les responsables de district qui allaient être élus, etc. Tout en voyant bien dans ces explications qu'ils avaient un rôle très mineur, etc. Mais tout le monde a appelé quand même à aller voter en disant... allons voter pour montrer que tout Hong Kong soutient le mouvement. Donc c'était vraiment plus une sorte de plébiscite de oui ou non, vous êtes pour le mouvement, après l'épisode de deux semaines très très intense d'occupation de la fac, où vraiment toute la ville, ça a été une psychose. Je pense qu'on imagine assez mal l'ambiance qui a pu avoir lieu à ce moment-là. C'était, toute la ville était prise par ça. Et donc les élections arrivaient vraiment comme un référendum pour dire oui ou non au mouvement, beaucoup moins que pour voter sur des thèmes spécifiques. Et donc, leur sens a été un peu transformé, disons. Et donc, c'est des élections qui, habituellement, sont complètement... Enfin, sont toujours remportées par les partis pro-chinois. Il y a une très forte abstention, généralement, et c'est le parti pro-chinois qui les remporte. Et là, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y a eu une très forte participation. Ça, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude, il y a plutôt 30% de participation, là, il y a plutôt 70%. Et c'est le parti, les partis pro-démocratie qui l'ont emporté, avec des gens qui, je disais tout à l'heure, ont fait campagne en, en black bloc avec leurs masques, avec des affiches où il y avait écrit juste les slogans du mouvement, et c'était ça leur campagne. Ils faisaient campagne là-dessus, et ils ont gagné. Il y a 13% des candidats sur les 462 élus qui ont fait campagne avec les 5 demandes du mouvement et qui ont été élus. Donc c'est quand même des élections un peu étranges, disons, et qui ont voilà, marqué vraiment une sorte de désaveu complet du gouvernement, et surtout avec toute cette participation. Mais très vite, en même temps, sur les réseaux, la propagande du mouvement, etc., a dit que voilà, ces élections, il fallait rien en attendre, que ça ne changeait pas grand-chose à la vie à Hong Kong, parce que ces représentants, il y en a quelques-uns qui vont aller au Parlement après, et il y en a quelques-uns qui vont pouvoir élire les, enfin participer à l'élection du
Congrès hongkongais, là, c'est ça.
Oui, voilà, du Conseil législatif, mais pas du tout assez pour que ça représente un, enfin pour que ça puisse faire basculer la chose du côté pro-démocratie. Sans compter qu'en plus les candidats sont en général c'est Pékin qui propose un certain nombre de candidats, ça c'est pour le président de l'exécutif. Et donc voilà, en bref, il faut continuer le mouvement. C'était juste un, en fait ils l'ont intégré en quelque sorte à leur stratégie Be Water, en disant voilà, c'est un moyen comme un autre de se soutenir, de se montrer que on est encore là, on est en nombre, etc. Mais il est évident qu'il faut continuer. Et donc voilà, ça, il y a d'ailleurs des gens qui ont été élus le 24 novembre, qui parce que à la Polyu, il y avait encore des gens dedans et qui sont allés 2 jours plus tard. Ils y sont allés pour les soutenir, montrer qu'ils étaient avec eux, etc. Donc voilà, c'est assez bizarre, des élections comme ça qui qui renforcent en quelque sorte le mouvement, un désaveu pour le pouvoir, mais en même temps ça continue et c'est pas un point d'arrêt du tout comme on peut en avoir l'habitude par ailleurs dans des mouvements plus classiques.
Parce que pour l'instant, donc, ce mouvement qui est assez revendiqué, donc sans représentation, à la fois pour se protéger après ce qui s'est passé, le mouvement des parapluies, mais aussi dans une volonté à un moment d'aller contre ça, il continue comme ça. Il n'y a toujours pas de figure qui dépasse. Justement, est-ce que les élections, elles ont favorisé à un moment l'émergence de leaders?
De leader pendant les élections, non. C'était vraiment par district, il y a des gens complètement inconnus qui ont été élus juste parce que c'était le candidat pro-mouvement en fait. Et donc de leader, je dirais pas. Après, il y a quelques figures médiatiques quand même qu'on a un peu vu partout. Là, Le Point, après la signature par Trump d'une loi spéciale sur Hong Kong, Le Point, dans tous les kiosques, mettait le portrait de Joshua Wong, qui est du coup un étudiant qui avait même pas 18 ans au mouvement des parapluies, qui là est devenu une figure médiatique. Chef ensuite du parti Demosisto, donc pro-démocratie, qui a émergé après le mouvement des parapluies. Il s'est fait enfermer 2 ans après le mouvement, parce que du coup la répression prend du temps là-bas, et il est sorti de prison au moment de, là en 2019, en juillet. Et il a commencé, lui, à faire de l'international. Il est allé voir le ministère des Affaires étrangères allemand, il est allé voir le Sénat aux États-Unis, le tout pour faire voter cette loi et, en gros, avoir du soutien international auprès des puissances occidentales. Et donc, lui a, je pense, quand même une sorte d'aura un peu comme ça, mais il donne aucun mot d'ordre au mouvement. Et je pense qu'il y a il y a vraiment des milliers de gens qui le regardent pas, qui n'ont rien à faire de lui, quoi. Mais voilà, ça reste des figures médiatiques, du coup, qui concentrent l'attention, etc. Et après, quelques autres aussi sur les réseaux, c'est toujours pareil. Il y a un certain nombre de gens qui sont plus écoutés, plus voilà, qui ont plus d'influence. Et sur ça, nous, c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir. S'il y a des ficelles qui sont tirées, comment et par qui de ce point de vue-là.
Ouais, de toute façon, on le saura certainement difficilement à un autre moment, mais c'est vrai qu'on a eu ce truc ici depuis la France, en tout cas, moi j'ai ressenti ça, de la volonté de faire rentrer ce mouvement dans des coordonnées habituelles, du coup, élection, leader, moi j'avais vraiment cette impression en novembre, le camp pro-démocratie a gagné, donc voilà, ça allait s'arrêter, puis vu que ça baisse la présence dans les médias, du coup, on a l'impression que ça s'arrête. C'est loin d'être le cas, on va pouvoir en parler, mais tu as évoqué l'action du Congrès états-unien qui vote le 20 novembre, juste avant ces élections, le Hong Kong Human Rights and Democracy Act, qui est donc une manière d'encourager l'opposition à Pékin, etc. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus ? Qu'est-ce que ça provoque à ce moment-là ? Et qu'est-ce que vous avez à en dire, du coup?
Ça, c'est un aboutissement, du coup, de plusieurs mois de lobbying intense de la part du mouvement, mais aussi, on imagine bien, de la part de gens comme Joshua Wong et d'autres politiques qui ont dû agir plus dans l'ombre, etc. Dans le cadre d'une stratégie un peu... dont la version populaire, disons, est tirée de Hunger Games, qui dit « If we burn, you burn with us ». Si nous brûlons, vous brûlez avec nous. Et pour dire, en gros, si vous nous foutez dans la merde, si les Chinois vous accaparez tout notre pays, notre liberté, etc., eh ben, on va vous tirer vers le bas, on va s'accrocher à vous pour que vous tombiez avec nous à l'eau ou dans les flammes. Et donc, à l'international, ça voulait dire faire passer cette loi, qui est en gros une loi spéciale aux États-Unis. Enfin, les États-Unis jusque-là reconnaissaient un statut spécial à Hong Kong par rapport à la Chine, qui leur permettait de faire du commerce de façon privilégiée, disons. Et là, l'idée est d'abolir ce statut spécial. Bon, c'est encore une loi qui porte le nom des droits de l'homme à Hong Kong, etc. En disant, ces accords commerciaux, ils sont soumis à un rapport annuel sur les droits humains à Hong Kong. Et si ce rapport stipule qu'en fait il y a des limites qui sont franchies, et ben il y a un certain nombre de clauses, des accords qui tombent, et donc il y a un certain nombre de partenariats économiques qui tombent, notamment des partenariats, ça c'est assez intéressant, sur la répression, sur la fourniture d'armes et pour le maintien de l'ordre à Hong Kong, mais aussi économiquement. Et donc l'idée étant de dire, ben voilà, on coupe la manne, disons, financière, économique que représente l'accès privilégié avec les États-Unis, sachant que les Chinois, évidemment, en ont beaucoup besoin de ça, parce qu'Hong Kong, pour eux, c'est aussi une place stratégique à ce niveau-là. Et visiblement, ça a fait quand même son petit effet, parce que la Chine a réagi, c'était pas complètement anodin. Maintenant, évidemment, à nous, ça nous semble un peu jouer sur un plan géopolitique sur lequel non seulement on a zéro puissance, aucune arme. En plus, on n'en reconnaît pas du tout ni les acteurs, ni les moyens, etc. Donc, ça nous parle pas trop. Et en plus, c'est se tourner vers l'Occident et vers le protectorat, disons, américain, éventuellement même le vieux fantôme colonial et néocolonial. Donc, c'est assez étrange. En même temps, il faut aussi y voir une dimension très pragmatique, que les Hongkongais, voilà, c'est une espèce d'isola comme ça, dans juste à côté de la Chine, qui est un pays énorme, super puissant, et pour se battre, évidemment qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et voilà, je pense que c'est jamais une très bonne stratégie de miser sur une puissance comme les États-Unis, on l'a vu avec les Kurdes, comment ils se sont fait lâcher, mais il y a quelque chose de pragmatique aussi, qui est que voilà, ils se tournent vers les gens qui ont un pouvoir, qui peuvent les aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un peu, disons, il y a cette ambiguïté-là, je pense, dans le rapport aux États-Unis. En tout cas, maintenant, cette loi est passée. Après, moi, j'ai lu des articles aussi de Hongkongais qui disaient, oui, enfin, regardez la communication de Trump, c'est vraiment, il l'a fait aussi pour l'opinion, pour son image. Mais c'est pas non plus... Il a pas embrassé le mouvement hongkongais très clairement. Il a fait tout pour marquer toutes les... Enfin, donner toutes les marques de respect à Xi Jinping tout autour de la signature de cet accord. Donc voilà, évidemment, il se crame pas non plus dans son rapport à la Chine.
Mais après, c'est clair que de toute façon, on est au cœur du capitalisme mondialisé avec, avec Hong Kong. Et j'ai l'impression, après, aussi qu'il y a un rapport à la géopolitique qui est différent. Parce que dans l'interview, par exemple, du Worker Group qui est sur 19h17, là, on en avait parlé déjà la dernière fois, la personne interviewée dit peut-être que c'est aussi du souffle gagné pour Taïwan. C'est-à-dire, c'est une bataille qui se joue contre la Chine. Et du coup, des espèces de dimensions qui, pourtant, pour quelqu'un qui est donc lutte des classes, etc., vraiment, qui est dans une perspective comme ça, il voit aussi des choses en termes de liberté politique qui sont hyper importants. Donc j'imagine qu'il y a aussi des lectures dans cette espèce de métropole globalisée. On l'a vu, hein, 2% de ce qu'ils mangent est produit sur place, donc elle est connectée complètement, donc ça doit aussi résonner différemment, quoi. Toujours est-il que ce mois de novembre, si on continue et puis on va terminer un petit peu le déroulé de... Bon, quelque part, alors, entre guillemets, ça se calme un peu, on va dire, parce que on arrive à atteindre le niveau que le mois de décembre est finalement peut-être un tout petit peu plus calme, et jusqu'à qu'on dise, bon, bah, quelque part, c'est en train de s'essouffler, mais ça, on adore dire que les mouvements s'essoufflent. Je pense qu'il y a une prime spéciale pour les journalistes pour dire que les mouvements s'essoufflent. Mais le 1er janvier, là, ça a été plus d'un million de manifestantes dans la rue, donc près de 400 arrestations, donc un truc assez énorme. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Vous avez un peu des infos là-dessus, là ou...
Alors, du coup, c'est pas parce qu'on n'a plus entendu parler du mouvement là dans les médias occidentaux au mois de décembre qu'il s'est rien passé. Donc je vais revenir vite fait quand même sur deux trois événements un petit peu significatifs. Le 8, il y a eu le 6e anniversaire du mouvement. Enfin, en gros, ça faisait 6 mois que le mouvement avait commencé. Et donc, du coup, il y a eu quand même 800 000 personnes qui sont descendues dans les rues à cette occasion. Et ensuite, à partir de mi-décembre, il a continué d'avoir des actions. Enfin, les manifestations continuent avec moins d'ampleur, mais il continue d'y avoir quand même des actions. Alors, c'est des stations de métro qui sont attaquées au cocktail Molotov, des magasins aussi, des machines qui vendent les tickets qui ont été vandalisées, des bus qui sont vandalisés aussi. Et des manifestations étudiantes aussi en soutien à des étudiants qui se sont fait arrêter, alors qu'ils sont pas mal réprimés par la police, mais où il y a quand même, je lis, 600 écoles dans lesquelles il y a eu des manifestations en soutien à des camarades interpellés. Il y a eu aussi le 18 décembre une manifestation à Shanghai, donc dans le continent, une manifestation, un flash mob d'appel à la liberté, quoi. Donc c'est quand même pas rien en ce moment. Et une manifestation aussi en soutien aux travailleurs domestiques indonésiennes. Une petite manifestation par rapport aux... Enfin, c'est 500 personnes qui participent à la manifestation. Ça n'a rien à voir avec les grosses manifestations qu'on connaît, mais ça vaut quand même le coup de le souligner. Et aussi, à partir du 24 décembre, la banque HSBC qui commence à être particulièrement vandalisée. Donc il y avait déjà la banque of China qui avait commencé à subir des attaques. Et là, maintenant, c'est la HSBC. Et la HSBC, c'est une banque qui est hongkongaise, quoi. Enfin, qui est née à Hong Kong, je crois, ou une des principales banques de Hong Kong. Voilà. Aussi, pour la petite anecdote, il y a des policiers qui ont attaqué des policiers sous couverture, par erreur.
Ah.
C'est assez marrant. Et du coup, ça a commencé à... Enfin, disons qu'il y a eu de plus en plus d'interventions du mouvement à nouveau autour de Noël, où ils ont préparé en fait plusieurs jours d'action, et notamment dans des centres commerciaux. Donc il y a eu plusieurs centres commerciaux qui ont été occupés, parce qu'en fait... à Hong Kong, les gens sont pas particulièrement catholiques, chrétiens. Enfin, il y a plein de croyances assez différentes. Donc Noël, ça a plutôt pris la forme de, je sais pas, d'une manifestation capitaliste, quoi, où les gens sortent dans la rue, vont dans les magasins, achètent des cadeaux et vont voir sur le port les illuminations de Noël, quoi. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent pour l'occasion. Et donc là, il y avait un appel en ligne à venir saboter les fêtes et déranger le business, quoi. Enfin, venir déranger le commerce à cette occasion-là. Donc il y a eu pas mal de manifestations masquées qui sont entrées dans les magasins, qui ont jeté de la peinture, qui ont dérangé les restaurants. Et voilà, du coup, ça a fait une ambiance dans la rue où il y a eu aussi une répression assez directe. Donc on peut s'imaginer les fêtes de Noël avec les gaz lacrymaux, les balles en caoutchouc, le spray au poivre et tout ça. Et du coup, il y a eu pas mal de personnes qui se sont fait arrêter. Il y a eu aussi une campagne de fouilles par la police, des fouilles faites au hasard dans des magasins, chez des journalistes et des passants durant les 3 nuits avant Noël. La veille de Noël, il y a eu des gros blocages, des entreprises considérées pro-mouvement qui ont été vandalisées. Et le jour de Noël, ça s'est un petit peu calmé. Et ensuite, comme tu le disais, le jour du Nouvel An, il y a eu à nouveau des grosses manifestations dans le quartier de Montcoq, notamment, avec des barricades enflammées dans les rues. Enfin bon, voilà quoi, il y a eu à nouveau une très grosse manifestation. Je sais pas, c'était 1 million de personnes ou,
Les chiffres officiels de l'Organisation des droits de l'homme qui appelait à la manif.
Donc du coup... Après, là, bientôt, là, on est le 6, ça va faire 7 mois que le mouvement a commencé. Et on se retrouve encore avec des manifestations à 1 million de personnes et un vandalisme croissant, quoi, on dirait.
On va faire une petite pause dans tout ça avec un groupe états-unien. Cherry Brown, my aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Got a power of suit away. I will be Pharaoh one day. I will command all of you. Your kids are meditating in school. Your kids are meditating in school. California, Overalls. Natural, you will draw for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. Paper on white horses near. And if these won't come back, you say, mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, Overalls. California Uberalles sur Canal Sud 92.2, vous êtes toujours sur Brasero et on parle toujours de Hong Kong. Et là, on va toucher à un truc, on s'était arrêté un peu là-dessus en novembre dernier, sur le conflit avec la Chine continentale et cette vision de racisme. Alors on aime bien, encore une fois, dans les médias, autant le dire, présenter les manifestants et manifestantes comme des brutes assoiffées de sang. Et du coup, un des risques, un des éléments du chaos hongkongais, ça serait le racisme contre les Chinois. Donc les Chinois continentaux, parce que bon, les Hongkongais sont aussi des Chinois. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire au-delà de ces visions un peu apocalyptiques où on nous montre des exactions comme ça, notamment il y a eu ces images très spectaculaires d'une personne qui se fait quasi brûler par la foule, etc. Qu'est-ce que ça recouvre en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire?
D'abord, je pense que, enfin, en tout cas, dans les médias, faut préciser quand même lesquels, parce que finalement, en tout cas, dans les médias occidentaux, ça a pas tant été dépeint comme ça. Quand même, ils ont bonne presse, les manifestants pro-démocratie dans Le Monde, Le Figaro, etc. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même eu des voix pour remarquer, voilà, ces épisodes-là, comme cette personne brûlée par des manifestants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les médias chinois font une propagande intense pour dire que le mouvement à Hong Kong, c'est de la haine envers les Chinois et c'est du racisme. Donc là, c'est sûr qu'il y a des choses qui se diffusent aussi depuis là. Et ensuite, on a pu le lire aussi dans des articles de Alain Brossa, par exemple, sur lundi matin, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, où voilà, lui, cette dimension-là, disons, lui fait peur et lui semble motrice, disons, dans le mouvement. Alors que nous, d'après ce qu'on a vu là-bas et aussi un peu de loin, c'est une position plus ambiguë, je dirais. Enfin, on a l'impression que c'est plus ambiguë que... donc effectivement, il y a des affects déjà identitaires avec cet hymne qu'on a vu au départ, la promotion d'une identité hongkongaise pour à la fois se souder ensemble et aussi faire valoir la distinction avec la Chine. Mais il y a aussi des affects, disons, au moins xénophobes, sinon racistes. Et nous, on en a vu des traces avec... à la fin d'une manif où on était là-bas, des gens qui on sait pas trop ce qui se passe, mais visiblement ils tombent à une trentaine, cinquantaine sur une personne qui on sait pas trop est-ce qu'elle a parlé mandarin, c'est-à-dire chinois continental, quand les Hongkongais parlent cantonais, ou est-ce que elle a attaqué des gens de la manifestation. En tout cas, ils lui tombent dessus à nombreux et ont une ambiance de lynchage un peu comme ça. Et cet homme là qui en gros se montre très clairement et dit explicitement qu'il est contre le mouvement et il se fait jeter du liquide dessus, voilà, sans doute de l'essence, et est brûlé ensuite. Et donc un truc qui une forme de violence, disons, qui ressemble plus à un truc fasciste qui nous met pas très à l'aise. Nous, on a l'impression que c'est quand même, ça reste des faits relativement isolés, c'est-à-dire que c'est dans une ambiance qui le permet, ça faut le reconnaître, mais que les tendances motrices du mouvement, elles sont pas là. C'est-à-dire que en octobre, par exemple, il y a eu un certain nombre de manifestations justement en soutien aux minorités ethniques de la ville, parce qu'elles avaient été la cible de la répression plus ou moins contingente et bizarre d'ailleurs des forces de l'ordre dans une manif en mi-octobre où un canon à eau avait aspergé une mosquée, et la manif d'après avait porté là-dessus, quoi, spécifiquement en soutien aux minorités. Et aussi avec... mais bon, ça peut-être on y reviendra après, mais il y a eu un certain nombre de manifs en soutien au Xinjiang, qui est une région en Chine, peut-être on en reparle après, mais où du coup, les gens là-bas sont à majorité musulmane, de religion musulmane, et donc le mouvement a une espèce d'attention à la question des minorités, puisqu'en fait, Hong Kong peut aussi se présenter comme une minorité... bon, voilà, presque politique, puisque c'est une cité-État un peu à part, mais aussi minorité linguistique, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, et que d'ailleurs il y a des politiques chinoises pour que le mandarin se répande, et pour aspirer comme ça un peu le cantonais. Et donc, je pense que ce serait vraiment un coup de force d'aller parler d'un mouvement à tendance majoritaire, raciste, etc., qu'il y a, une sorte d'effet de déformation un peu trop gros.
Mais de toute façon, en plus, la Chine, en tout cas l'État chinois de Pékin, est quand même un État assez impérialiste, parce qu'on parle souvent des Chinois, mais c'est quand même un énorme pays, donc avec pas mal de minorités, entre guillemets, mais c'est toujours un peu bizarre ce terme de minorité, parce que comme s'il y avait une majorité à un moment qui ferait sens, mais bon, il y a le Tibet, il y a le Xinjiang, effectivement, avec les Ouïghours qui sont quand même mis dans des camps, quoi, je veux dire, c'est ça qui se passe, donc... quel discours il y a sur cette Chine autoritaire et comment ça se passe, parce qu'on a aussi entendu pas mal parler d'importation du savoir policier chinois à Hong Kong, quoi. Donc comment ça se passe à ce niveau-là, quoi.
Bon. Alors du coup, nous, par rapport à ce que disait Ivan juste avant, on a l'impression que du coup Hong Kong, c'est plutôt le Hong Kong qui se défend un peu comme qui se défend face à la Chine impérialiste et totalitaire qui cherche quelque part à recoloniser cet endroit qui a été colonisé par les Anglais, mais du coup là c'est vraiment un mouvement de récupération de ce territoire là et donc par le biais du contrôle social, par le biais d'un nouveau contrôle économique de grignoter sur les libertés petit à petit, tout comme elle le fait. Alors on peut parler effectivement du Xinjiang et qui est du coup pareil une colonisation. C'est pas seulement ethnique, quoi, c'est pas seulement la population ouïghour qui se fait enfermer dans des camps de travail, c'est qu'en fait ça suit un processus économique. La Chine a mis en place des nouvelles routes de la soie, donc qui sont des routes commerciales qui sont censées arriver jusqu'à l'Europe et donc qui vont leur permettre de plus passer par la mer, quoi. Et en fait le Xinjiang est exactement sur ce trajet là, quoi. Et donc mater ces populations, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur un territoire, mais pour une raison purement économique, quoi. Et donc en fait c'est vrai qu'il y a un mouvement comme ça de la Chine qui petit à petit, parce que sur le Tibet, ça fait des années que ça existe et tout ça, mais en tout cas, qui en ce moment cherche à reprendre le contrôle sur de nombreux territoires. Taïwan, c'est un peu le même mouvement. Pour l'instant, Taïwan est indépendant, mais la Chine a fait des mouvements aussi pour faire en sorte qu'il y ait des pays qui le reconnaissent plus comme un État indépendant. Demander à Apple d'enlever l'émoticône, le petit drapeau de Taïwan dans ses émoticônes. Enfin bon, voilà, c'est des mouvements un peu qu'on pourrait considérer sournois, mais qui sont un peu pernicieux pour continuer à coloniser un territoire. Et donc c'est ça qui se passe aussi à l'échelle de Hong Kong, quoi. Et en tout cas, c'est sûr que c'est ça que ressentent aussi les Hongkongais, qu'il y a une très forte peur du Chinois qui démarre de là, notamment depuis quelques années, où les Chinois, ayant commencé à avoir un capital économique beaucoup plus fort, se sont mis à faire du tourisme très massivement à Hong Kong et aussi à acheter des propriétés immobilières. Et c'est ça qui a fait... En tout cas, c'est comme ça que les Hongkongais le racontent. Mais c'est ça qui a fait monter le prix de l'immobilier hyper fort. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent pas que les Chinois continuent de venir chez eux, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Si, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai conflit aussi avec un pays, avec une politique impérialiste, quoi, autour avec de Pékin. Mais du coup, est-ce que c'est toujours complexe ces rapports, parce que bon, finalement, les rapports de racisme sont toujours construits aussi par des rapports économiques qu'on racialise, mais du coup, est-ce que dans le mouvement, il y a cette tentative de séparer Pékin du chinois, c'est-à-dire d'une personne qui porterait en elle-même, par ses traits, par son appartenance géographique, les responsabilités finalement d'un État et d'une politique générale ou d'une bourgeoisie chinoise, autant est qu'on peut utiliser ce terme, mais pour un pays communiste. C'est une blague.
Bah franchement, on dirait pas. Enfin, pas vraiment, j'ai l'impression.
Après, moi, là où les seuls indices que j'ai par rapport à ça, c'est non seulement bon, depuis qu'il y a eu les grandes révélations là, du New York Times et ensuite de la collaboration internationale des journalistes sur le Xinjiang, y a des manifs à propos de ça qui prennent ça comme motif principal, qui se sont quand même multipliés. Et on le voit dans toutes les affiches aussi, ça ressort beaucoup. Et donc, il y a une forme de solidarité qui se cherche, c'est pas forcément avec des Chinois dans l'absolu, mais en tout cas avec les Ouïghours, par exemple, et qui est intéressante, parce qu'en vérité, les Hongkongais, je pense, un des pièges tendus vers eux, c'était le fait de s'isoler dans leur identité, dans leur petit coin, etc. Et alors que, très certainement, ils gagneraient fort à... je sais pas, à s'allier et à faire jouer des contradictions au sein même de la Chine, puisque, en tout cas, de notre point de vue, c'est évidemment de ça qu'il faut partir, puisque la solidarité avec Donald Trump, on n'en attend pas grand-chose, là où la solidarité avec les Ouïghours ou avec des gens qui luttent en Chine, elle nous paraît beaucoup plus intéressante, ne serait-ce que parce qu'elle fait craquer la Chine de l'intérieur aussi. Et il se trouve que... il y a eu avec les Ouïghours, et il y a eu quelques trucs aussi autour de... au nord de Hong Kong, pas très loin de Hong Kong, il y a eu des manifs en Chine, du coup, contre des grands projets d'aménagement, notamment contre un crématorium qui devait s'installer dans une ville de province. Et des manifs assez, assez virulentes, des bagnoles de police retournées, des cocktails Molotov, etc. Et très vite, le gouvernement a retiré le projet. Ensuite, il y avait un autre projet pas très loin, ça a répété. Et il y a eu quelques références à ça dans le mouvement. Et donc, voilà, nous, évidemment, c'est le genre de truc auquel on... on est un peu sensible, parce que ça nous semble être cette solidarité-là qui est intéressante. Donc, il y a un peu la tentative comme ça de dire, en fait, même en Chine, il y a des gens qui sont alliés à nous, si tant est qu'ils combattent le Parti communiste chinois et qu'ils combattent le Pékin. Et donc, en ce sens-là, il y aurait des petites tentatives de pas tout assimiler ensemble.
Et l'ingérence de Pékin dans la répression, où est-ce qu'on en est de ça? C'est-à-dire vraiment concrètement l'infiltration? Parce que j'ai l'impression que par exemple aussi à un moment on entendait parler de trucs anti-chinois, on poursuit, mais c'était aussi, on cherchait des flics infiltrés aussi à un moment. Donc est-ce qu'on a encore des histoires comme ça de policiers chinois qui seraient venus, ou de militaires de Pékin du coup? Est-ce que...
Non, vas-y.
Là, il y a un nouveau, je crois que c'était hier ou avant-hier, un nouveau bureau, l'ancien bureau des liaisons qui représente justement le pouvoir pékinois sur le territoire hongkongais, il a été démis de ses fonctions et en fait, ils l'ont remplacé par un mec encore plus vénère qui a fait son premier discours en mandarin, justement, alors que 85% des Hongkongais parlent le cantonais, parlent pas cette langue-là, et où... il le sous-entend pas, il le dit assez clairement même, que l'emprise du pouvoir du régime chinois dans l'administration de la ville et de la police, elle est assumée, quoi, elle est même pas, il y a même pas un risque d'infiltration, mais elle est faite à visage découvert, j'ai l'impression.
Il y a eu pendant les occupations de la fac, là, la ville c'était le gros bordel, tout le monde se rassemble autour de la fac pour aider les gens, des briques qui sont mises sur toutes les routes, etc. Et il y a eu un moment symbolique où l'armée chinoise, pendant à peu près une heure, deux heures, est sortie pour nettoyer les routes. Et c'est un truc complètement inédit, c'est jamais arrivé à Hong Kong, parce que normalement l'armée chinoise intervient qu'en cas de demande du gouvernement hongkongais, ou alors en cas de force majeure. Mais là, ils sont sortis comme ça, volontairement, en t-shirt, short, et hop, ils ont balayé les routes. C'était vraiment une opération de com' pour dire « on est là ». On est toujours là, on existe, et attention, quoi, tout le monde l'a pris comme ça. Et après, il y a eu aussi le truc que nous, on avait quand même entendu quand on était là-bas, que les flics de Hong Kong, c'est pas possible qu'ils gèrent à eux seuls tout ça, et que plusieurs fois, il y a des gens qui ont été entendus en train de parler mandarin des flics, et que l'armée chinoise, évidemment, la police chinoise envoie des gens pour réprimer à Hong Kong.
Oui, d'ailleurs, moi j'avais lu ça aussi de l'armée chinoise, et du coup, en fait, l'armée chinoise a déjà des casernes dans Hong Kong, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est très bizarre, c'est qu'on nous montre des camions, genre l'armée chinoise arrive, en fait elle est déjà dedans, elle est déjà là. Et c'est vrai que le rapport de force a l'air tel, et ça remet aussi en lumière l'importance du jeu géopolitique, parce qu'à un moment il y a un rapport de force à tenir, parce que c'est pas vrai qu'ils risquent d'arriver, ils sont déjà là, il leur suffirait d'une décision pour sortir et puis de rajouter à la répression, qui est déjà quand même déjà pas mal balèze, quoi qu'il arrive, même si le niveau de confrontation est fort, quoi. Donc c'est clair et net que la tension est importante avec Pékin, et elle est pas fantasmée, quoi.
Et en Chine, Xi Jinping, il est quand même critiqué pour sa non-intervention, une intervention pas assez forte à l'égard de Hong Kong, quoi. À l'intérieur du Parti communiste, il y a des critiques comme ça qui émergent aussi.
Ouais, ça va jouer aussi, ça, j'imagine, à un moment, les rapports, quoi. Ben on arrive sur la fin. Je pense qu'en même temps, ça laisse toujours sur sa fin, pour un dernier petit jeu de mots de l'année. Mais parce que en fait, on a l'impression quand même qu'on ne sait pas où on va avec ce mouvement, quoi qu'il arrive, quoi. Et bon, je ne sais pas si c'est important, mais c'est toute une question qui reste transversale à plein de choses qui se passent, de rupture. Un peu partout dans le monde, où il y a à la fois une espèce d'énorme confrontation et on ne sait pas ce qui se joue exactement, quoi. En tout cas, merci pour l'éclairage.
Et pour le petit mot de la fin, les Hongkongais, là, ont l'habitude de dire qu'est-ce que ce sera le retour à la normale, mais le retour à la normale, il n'existe plus, quoi. Enfin, ils ont trop brisé la normalité pour pouvoir revenir à quelque chose d'avant, quoi.
D'avant. Bah déjà, Hong Kong, c'était déjà quand même un peu chelou, hein, quoi qu'il arrive. Quoi. Musique, tu veux dire un truc ?
Non, j'allais dire.
Au revoir. Et puis, peut-être on verra si on fera un numéro 3. On verra ce qui se passe. Et en tout cas, en attendant, on se quitte en musique.
Il faut que je vous avoue un truc. Mm-hmm. En fait, le lundi soir, quand je suis pas là, j'écoute Brasero. Ouais. En tout cas, ça fait du bien de sortir du tiroir. Brasero sur Canal Sud 92.2 le lundi de 19h à 20h.
C'est bien, hein? Non, vous voulez qu'on fasse du truc ou c'était bien?
C'est bon? C'était pas trop timide.
Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodrames d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes, tu t'es fait débrider les yeux. Mais comment faire pour qu'il soit bleu? Encore star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Encore star, tu ne remercies pas le dans ton Las Vegas de bazar. Tu fais tes rêves en blanc et noir. Encore star, t'as un chinois dans ton miroir. Tu n'es qu'une encore star. Pour jouer avec Faden Way, tu n'es pas vraiment on the way. Pour les jeunes premiers dans ton île, Hollywood c'est un rêve facile. Encore star, t'es pas né là où tu voulais.
celle